France Culture.
Bonjour Lionel Trouillon.
Bonjour.
Alors hier nous avons parlé de votre art du roman, de votre phrase, de votre écriture. Et aujourd'hui, dans ce troisième épisode, j'aimerais qu'on parle des thématiques que vous abordez dans vos romans et des lieux que vous explorez. Il me semble qu'il y a chez vous l'envie de documenter l'évolution de la situation à Haïti et de cartographier la ville de Port-au-Prince.
Cartographier la ville de Port-au-Prince, certainement. Documenter l'évolution de la situation, je ne sais pas. Parce que dans mes livres, c'est rarement la situation politique directe. J'essaie de mettre en relation le passé et le présent. Et ça, pour moi, C'est extrêmement important. Quel est le passé qui conduit à ce présent-là? Et quel est le rapport de ce présent avec le passé? Je pose la question à partir des lieux, bien évidemment, et à partir des personnages. Les lieux qui se transforment, les lieux qui naissent, qui meurent. Comment ils naissent, comment ils meurent, qu'est-ce qui les a mis en vie, qu'est-ce qui les a tués, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, puisque nous sommes présents au monde dans des lieux. Nous ne sommes pas présents au monde dans le vide. Donc, en cette présence au monde des individus et des communautés, comment se manifeste-t-elle dans les lieux et dans l'histoire des lieux? Et comment est-ce que l'histoire des lieux, c'est aussi l'histoire de la transformation de la présence au monde des individus et des communautés? Ça, je suis certain que c'est quelque chose qui revient souvent dans les petits livres que j'écris, mais vous savez, il y a aussi des thèmes ou des thématiques même, ou des problématiques qui nous viennent sans que nous en ayons conscience. Un critique américain qui m'a fait réfléchir sur moi-même pendant quelques jours, après je me suis dit, bon écoute, la critique, elle dit ce qu'elle veut, tu t'en fous. C'était une phrase sur le père, dans un texte d'un critique américain, que c'est vrai que dans mes romans, il n'y a pas de père. Quand il y en a, il meurt. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi je n'avais jamais eu la moindre réflexion. Alors, je suis retourné, ce que je fais pas souvent, revisiter mes petits livres, et je me rends compte que, en effet, souvent, il n'y a pas de père. Quand il y en a un, on dirait que les enfants ou quelqu'un d'autre s'arrange pour qu'il meure très vite. Et donc, après, je me suis interrogé, je me dis, est-ce que tu avais quelque chose contre ton brave père? Pas tant que ça, en tout cas pas suffisamment pour le tuer, mais... Donc, d'une part, il y a ce que on sait, qu'on croit savoir, qu'on met dans les textes, et puis il y a toutes ces choses qui nous débordent. Par exemple, la fréquence du mot main dans mes livres, c'est voilà encore quelque chose à quoi j'avais jamais pensé. C'est un mot qui revient tout le temps dans les choses que j'écris. Parfois, j'essaie de le traquer pour qu'il vienne pas. Il s'arrange quand même pour venir. Donc, il faut toujours parler avec précaution de ce qu'on veut mettre dans les livres, parce qu'il y a toute une partie des livres qui est de l'ordre du débordement.
Oui, j'imagine. Mais souvent, Lionel Trouillon, il me semble que vos livres, c'est des confrontations, c'est-à-dire à la fois les confrontations de plusieurs voies et de plusieurs lieux. C'est une villa et un bidonville, ou c'est le monde rural ou Port-au-Prince, parce que c'est pas toujours Port-au-Prince. Je me souviens qu'il y a un roman qui s'appelle Thérèse en mille morceaux. Oui, ça se passe au Cap.
Ça se passe au Cap, oui.
Et pourquoi au Cap?
Les Capois n'ont pas aimé ce livre. Oh, parce que c'était la ville de l'ordre. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. C'est une ville, d'ailleurs, elle est construite, c'est une ville très quadrillée, les rues sont très droites, et c'est la rue 1, la rue 2, la rue 3, la rue 4. Tout est quadrillé. À l'époque où j'écris Thérèse en mille morceaux, c'est encore une ville très aristocratique, très portée sur le passé glorieux, le roi Christophe, la citadelle, enfin, tout ce que je n'aime pas, tout ce qui est ordre, autorité. Et donc, je voulais foutre un peu de désordre dans la tête d'une femme, et il m'a semblé qu'il fallait la placer dans le lieu même de l'ordre. Donc c'était la révolte contre le roi, c'était la révolte contre l'aristocratie, c'était la révolte contre cette ville, qui nie tout ce qui est culture populaire, tout ce qui est forme de joie et de vie dans les milieux populaires. Et ça m'a été inspiré. Ça m'est venu de mon premier voyage dans la ville du Cap, il y a très longtemps, où j'avais rencontré une jeune femme et je me disais, aïe, 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 toute cette pesanteur, comment naître à soi-même quand on est écrasé par tout cela. Les livres que j'écris partent toujours d'anecdotes, de faits de vie ou de situations dont j'ai été témoin. C'est-à-dire, jamais je me suis dit, je vais inventer une histoire sur telle chose. C'est pour ça, quand on me demande quel est le prochain, quand on parle de roman, souvent je dis, mais je sais pas, il va naître de quelque chose qui va m'interpeller, une sorte de noyau ou de point de départ qui part toujours du réel, la belle amour humaine. J'avais vraiment rencontré une jeune femme qui s'appelait, bon, j'ai un peu modifié son nom, mais le prénom était voisin d'Anaïs, et qui venait en Haïti, elle était pas haïtienne, elle était française, mais son père avait longtemps vécu en Haïti, elle était venue en Haïti comprendre pourquoi son père était resté si longtemps dans ce pays, pourquoi il l'avait aimé. Et c'est de là qu'est née la belle amour.
Voilà, c'est une humaine, jeune cette, fille cette, occidentale ouais. qui revient donc, et ouais. qui est, repart.
Moi, je pars toujours d'un élément de réalité. Il y a une thématique qui va se développer à partir de cet élément de réalité. Mais je crois qu'il y a toujours une question qui se pose dans tout ces démêlés. Que faire de sa présence au monde? Et je pense que c'est toujours la question du choix de l'individu, de l'impossibilité de choisir qui est posé, ce que vous appelez confrontation entre les lieux, pas seulement une confrontation entre les lieux, par exemple dans Ne m'appelle pas capitaine, cette jeune femme qui sort d'un milieu bourgeois et qui va se retrouver dans ce quartier aujourd'hui quasiment totalement déserté, de Port-au-Prince connu sous le nom de Morne Dédé, mon rapport au lieu, c'est aussi mon rapport à moi-même, c'est ce que je fais de ma présence au monde, vers qui est-ce que j'ai envie d'aller, à quoi est-ce que j'ai envie de m'accrocher, d'être associé. Toutes ces questions-là, on se les pose à travers nos déambulations ou nos refus de déambuler. Et donc, c'est toujours l'individu dans un rapport avec la communauté qui passe par le rapport au lieu, qui passe par des choix sociaux. On ne peut pas habiter le monde entier en paix. On ne peut pas habiter un lieu où vous avez une armée régulière qui bombarde des enfants en ne se posant pas la question « Aïe, quelle souffrance me touche le plus ? Qu'est-ce qui me semble juste ? Qu'est-ce qui me semble injuste ?» Donc ces questions, nous les posons, et nous, dans nos vies, nous les posons à partir de nos rapports au lieu.
Donc. Mais justement, c'est une littérature engagée. Il me semble que pratiquement dans chaque livre, c'est une critique de la classe dominante à Haïti.
Elle le mérite bien. Elle le mérite bien. J'espère que de ne pas le faire de manière grossière. Et malgré tout, j'essaie de supposer aux individus la possibilité de choisir. C'est-à-dire que la surdétermination, je ne la prends pas pour invincible. Je ne la prends pas pour invincible. J'essaie de proposer les personnages qui sont dans une discussion avec eux-mêmes, qui peuvent choisir. D'ailleurs, souvent, mes livres ne sont pas, d'une certaine manière, ils ne sont pas finis. On ne peut pas dire, voilà, le personnage a choisi, voilà ce que sera le personnage demain. Et moi, j'aime bien l'idée que quelqu'un d'autre pourrait donner la fin de son choix. Par exemple, la Thérèse en 1000 morceaux, ça se termine, elle est debout. Au sommet de la montagne, elle regarde qu'est-ce qu'elle va faire, personne ne peut dire. Et souvent, il y a cette possibilité dans à la fin de La belle amour humaine, Anaïs, qu'est-ce qu'elle va faire ? Va-t-elle revenir ? Va-t-elle repartir ? Comment reviendra-t-elle ? Comment repartira-t-elle ? J'aime donc laisser cette possibilité critique sociale, oui, pas quelque chose, je dirais, de lapidaire ou de grossier, ou qui serait uniquement de l'ordre du slogan. Poser la question, est-ce qu'on peut libérer son intériorité? Est-ce qu'on peut libérer son intériorité, ou est-ce que cette intériorité, elle est toujours aussi déterminée par les origines, par les pratiques sociales? C'est ce que j'essaie de mettre en discussion.
Oui, vous parliez de la place dans le monde tout à l'heure, c'est aussi comment on se place par rapport à la collectivité ou par rapport aux autres. Dans un livre comme Kanjaou, Kanjaou en 2016, c'est un groupe de 5 jeunes gens, et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, comment ils se positionnent par rapport aux gens qu'ils rencontrent.
Oui, et les postures, il faut se méfier aussi des postures. Dans Kanjaou, parmi ces 5, il y en a qui se posent comme révolutionnaires, mais quand on regarde leurs pratiques, quand on écoute leur langage, ça n'a vraiment rien de quelque chose de libérateur. Moi, j'essaie aussi de traquer les mensonges. de traquer les postures.
Les postures,
oui. Ouais, c'est quelque
chose. Mais là qui, aussi, ça passe pas.
C'est l'agace qui m'agace profondément, les gens qui sont dans une posture, une sorte de rapport déclamatoire à la vie, quand on va au fond dans leur pratique, c'est pas du tout cela.
Mais ça passe aussi par les lieux, il me semble, parce que Kanjaou, c'est aussi le nom d'un bar. Et il y a toute une description de ce bar. C'est marrant comme à travers un lieu, on voit Haïti.
Ah, sauf que la situation a évolué en pire. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de bar.
Oui, nous sommes en 2025, oui, donc.
Il n'y a plus de bar à Port-au-Prince. Oui, là, c'est...
Et Kanjaou date de 2016, oui.
Donc oui, mais à l'époque, c'était ça. C'était le règne de la Minusta, vous aviez tous ces gens, tous les paumés du monde qui prétendaient être venus aider Haïti, et ça se rencontrait dans des bars, et ça... Pfft. Au fait, vous aviez des gens qui venaient satisfaire toutes leurs pulsions et régler tous leurs problèmes avec eux-mêmes au nom de l'aide à Haïti. Donc j'en parle, et vous aviez forcément des jeunes haïtiens qui traînaient autour, et vous aviez en même temps aussi des jeunes haïtiens qui avaient une vraie conscience révolutionnaire, qui voulaient changer les choses. Moi, j'essaie d'exposer dans mes livres une grande quantité de réel. C'est-à-dire, pas me fixer sur un point, mais exposer l'ensemble des contradictions. Aller au plus près de l'ensemble des contradictions. Parce que on n'épuise pas un pays, on ne résume pas un pays. On ne peut pas dire, voilà, Haïti, c'est ceci, c'est... Cela qu'on ne veut pas dire Paris ou je sais pas, ou les États-Unis, c'est ceci ou cela. Donc exposer le maximum de contradictions, donner à voir, donner à entendre, tous, enfin, peut-être pas tout, puisque un livre peut pas forcément tout dire, mais un maximum de ce qui s'y passe. Parce que le plus grave problème, c'est quand on croit avoir fait le tour de l'autre. Moi, comme dit mon ami Jean Coulange, qui est un anthropologue haïtien, dans mon étude d'Haïti, j'en suis encore au certificat d'études primaires. Donc, je continue d'explorer, de me demander que pensent les gens, comment vivent les gens, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, quelles sont les idées communes, quelles sont les idées contradictoires. C'est là qu'est la vie. La vie, elle est dans l'exposition des contradictions et la possibilité des choix.
Oui, mais pourquoi le faire en romancier? Vous pourriez faire de la non-fiction, du documentaire? Pourquoi vous avez choisi le roman?
On revient à la notion de plaisir. J'y prends énormément plaisir. Et là encore, moi, dans ma tête, j'écris des anti-romans. Je préfère les appeler comme ça. Enfin, quand je parle d'anti-roman, je parle en référence à un certain roman du 19e siècle où vous avez une histoire très linéaire avec un personnage ou deux ou trois personnages autour desquels tout se joue. Moi, j'essaie de... Au fait, moi, j'écris les romans des personnages secondaires. J'aime dire ça, c'est peut-être difficile de dire. Il y a un personnage, et même dans Thérèse en mille morceaux, bon, le personnage de Thérèse, évidemment, a une grande place dans le roman, mais il y a plusieurs Thérèse en elle, donc ça fait déjà quelques personnages, et puis toutes les personnes autour. Je pense que dire une individualité, c'est compliqué. Il faut dire les individualités, et justement les mettre en relation, en confrontation. Au fait, je suis un vieux partageux. Je le confesse et j'aime bien que les individualités, les intériorités, elles se présentent à plusieurs dans les petits livres que j'écris.
C'est très beau, Lionel Trouillot, de dire que vous travaillez sur les personnages secondaires. Mais parfois, vous partez d'événements collectifs, comme Bicentenaire.
Oui, mais c'est toujours d'un événement ou d'une anecdote que je pars.
Mais ça,
toujours.
C'est plus qu'une anecdote, je veux dire, c'est vraiment un événement collectif, c'est des émeutes qui ont été réprimées.
Oui, comme pour Il n'est pas perdu, c'est aussi le cas, c'était des émeutes, des conflits entre tendances politiques. Oui, mais c'est toujours, que ce soit un petit détail, et en Valou pour Charlie, j'étais à une fête chez des amis plutôt riches, et il y avait un petit garçon qui était là, et visiblement, il n'était pas de ce milieu. Et voilà, je m'approche de lui, je lui demande comment tu t'appelles. Il s'appelle Diotor. Rien à voir, Diotor, dans ce milieu-là. Après, je me suis renseigné comment il se trouvait là, pourquoi il se trouvait là. Et c'est de là qu'est né le livre. Donc je pars toujours de quelque chose d'extérieur. Jamais d'un truc dans ma tête. Voilà, je vais écrire un roman sur ci ou sur ça. Il me faut cet élément extérieur qui me dit, hé camarade, peut-être qu'il y a à partir de moi quelque chose à être exploré, raconté. Et c'est ainsi que les, ce que vous appelez des romans se met en place d'habitude dans ma tête.
Mais est-ce qu'il y a des scènes ou des anecdotes que vous n'êtes pas arrivé à écrire ou à inclure dans un roman ?
Oui, sans doute. Sans doute, parce que on peut pas tout écrire. Au sens technique du terme, il y a des choses qu'on peut ne pas pouvoir rendre. Il y a des choses qu'on peut ne pas pouvoir rendre. Moi, j'ai vu des scènes de violence que je sais ne pas pouvoir rendre. J'ai jamais fait de roman sur le tremblement de terre, par exemple. Mmh. Il y a une raison très simple. Je vais dans un bar à Port-au-Prince, il y a un vieux monsieur qui parle, et ce qu'il dit est d'une telle force que moi, je vois pas comment je vais écrire quelque chose qui possède cette force. Et si la littérature est en deçà du témoignage, elle vaut pas la peine. Laissons la place au témoignage. Certainement, il y a des choses dont j'ai été témoin que je ne peux pas mettre en mots. D'ailleurs, moi, c'est pas la première fois que je le dis, les livres écrits à partir du tremblement de terre par mes amis et collègues sont de leurs livres ceux qui m'ont le moins touché. Moi, j'ai vu le tremblement de terre, comme je vous dis, j'ai entendu tellement de témoignages qui m'ont paru bien plus forts, qui m'ont plus ému, plus accroché que la littérature qui est née du tremblement de terre, que je me dis, bon, peut-être que viendra le moment, peut-être qu'il faut du temps dans certains cas, ou changer de position, de point de vue, mais certainement, il y a des choses qui m'ont bouleversé dans ma vie, j'ai jamais pu les écrire. Et je me dis, à la limite, c'est pas grave, si quelqu'un d'autre peut le faire, avec plus de force, tant mieux.
Mais est-ce qu'il y a des choses que les différentes situations politiques, parce que je ne vais pas vous rappeler votre grand âge, mais vous avez connu plusieurs bouleversements en Haïti. Je crois que vous avez même dû, à un moment donné, partir à Miami. C'était un peu compliqué de rester à Haïti. Mais est-ce qu'il y a des choses de ce fait-là qui étaient impossibles à écrire ?
Ah non. Du point de vue politique, les choses politiques directement, elles ne me semblaient pas difficiles à être écrites. Elles me semblaient sans intérêt. Ça peut paraître en contradictoire chez un écrivain qu'on dit être un écrivain engagé. Moi, j'utilise pas l'expression, ça c'est les journalistes et les critiques qui l'utilisent. La politique telle qu'elle se pratique en Haïti me permet pas de poser les questions que je veux poser sur le social. Donc il est rare que dans mes livres, je l'interpelle directement. Simplement parce que, pour moi, la politique, c'est toujours le nom d'autre chose, c'est toujours le lieu où autre chose va se manifester de manière souvent vulgaire, violente, même, mais le drame social, il n'est pas là. Ramener la politique à son origine sociale. Donc c'est pour ça que j'explore beaucoup plus les contradictions sociales, les autres zones de domination, d'exploitation, d'exclusion, plutôt que le terrain direct de la politique. C'est simplement que ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, enfin, ça m'intéresse comme citoyen, puisque j'ai ma parole de journaliste, j'ai des positions, on peut dire politiques très claires sur la réalité haïtienne, mais la politique en tant que telle, c'est quelque chose qui ne m'interpelle pas pour discuter de la réalité sociale dans mon modeste travail d'écrivain.
On arrivera, Lionel Trouillot, à votre engagement en tant que citoyen dans une prochaine émission. Mais comment, justement, on travaille et la violence et la pauvreté et ces sujets que vous abordez dans vos livres, comment on se débrouille pour pas être dans le voyeurisme, par exemple, quand vous décrivez ces populations pauvres d'Haïti ?
Il faut passer derrière leurs yeux pour regarder la réalité et entendre à partir de leurs oreilles. Pour moi, c'est fondamental. Autrement, vous avez raison, ça devient du voyeurisme. Il y a certains livres écrits sur la réalité des bidonvilles qui m'agacent profondément. On dirait quelqu'un qui est là, qui regarde de loin, qui fait une sorte de littérature presque ethnologisante. Hein. Moi, si je parle d'un gamin dans un bidonville, s'il y a deux gamins, ça peut pas être le même gamin. C'est pas des statistiques pour l'UNICEF. Il faut supposer une intériorité, une individualité à ces gens, enfants ou adultes, qui vivent dans ces milieux-là. Et cela, c'est extrêmement important. Important pour moi, supposer à l'autre, quelles que soient ses conditions de vie, l'humanité que je me suppose à moi-même. Et c'est là qu'il faut aller chercher une vérité une vérité humaine. Je vais pas écrire sur deux mendiants, comme l'a fait un très grand roman, permettez que j'ose le citer. Le grand roman de la littérature haïtienne s'appelle « Entre les seins des seins » de René Philoctète. C'est une histoire d'amour entre deux mendiants de 12 ans, Melone et Trouvaille. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu. C'est pas deux mendiants, c'est Melone et Trouvaille qui se trouvent être mendiants. C'est ça que je cherche. Donc là encore, j'ai aucune inquiétude, puisque je sais que je suis pas dans le voyeurisme. Et je donne toujours mes textes à lire à quelques amis qui n'ont pas forcément les mêmes idées que moi, avant de les envoyer à l'éditeur, pour me dire, est-ce que là j'ai trahi quelque chose ? Pour moi, c'est fondamental, ne pas trahir la réalité des gens, ne pas trahir le langage des gens, ne pas trahir leur vérité. Je sais pas, c'est pas une population, c'est des êtres humains, il faut supposer à chaque être humain sa part d'humanité. Ça, j'essaie de le faire, c'est même une priorité. Et c'est pour ça que j'essaie d'écrire de leur lieu à eux. Quand je fais mon dernier roman qui sort peut-être bientôt, là, je vais encore plus loin dans cette exploration. Absolument, faut pas que ça soit Lionel Trouillot qui parle. Faut pas que ça soit le petit bourgeois un peu déniaisé qui se dit « je vais me donner bonne conscience en parlant de la réalité des pauvres ». Et moi, je peux vous dire, le plus beau compliment que moi j'ai reçu comme écrivain, c'est quand des gens me disent « merci de ne pas nous avoir trahis ». Et ça, pour moi, c'est le compliment absolu. Quelqu'un qui a d'origine modeste, qui lit mes livres, qui me dit « merci de ne pas nous avoir trahis ». Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Je pense que c'est pas si difficile à faire, c'est simplement, c'est le lieu qu'on choisit d'adopter pour regarder. Et je reviens à ce livre qui m'a déniaisé, les raisins de la colère. Comment écrit-on ça? Comment est-ce qu'on atteint ce degré de vérité dans l'expression des contradictions propres à des gens qui se déplacent de l'ouest vers l'est ou de l'est vers l'ouest des États-Unis en pleine dépression, toute cette pauvreté, toute cette misère. Et pourtant, chacun y garde une individualité. À mon sens, c'est ça qu'il faut chercher.
Et puis, il faut chercher l'amour, il me semble, Lionel Trouillot. Il y a souvent des gens amoureux dans vos livres.
Oh, je pense. Oui, il faut quand même. Oui, j'écris des livres très durs. J'écris des livres très durs, mais je crois écrire ce que j'appelle des livres de la difficulté. Pas des livres de l'affaissement. Toujours la possibilité de faire les choses autrement. Et c'est pour ça que je cite souvent la petite phrase d'Éluard, si nous le voulions, il n'y aurait que des merveilles. Donc laisser quand même au personnage et à l'humanité la possibilité de se dire, bon merde, il serait bien temps que plutôt que de se faire des misères, on cherche à partager des merveilles. Donc si on considère merveille, amour, oui, il y a toujours ce petit fond. D'ailleurs, j'ai un ami jésuite qui me rend la vie impossible. Il veut absolument écrire un livre sur mon œuvre en disant que je suis un écrivain chrétien. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout l'idée d'être chrétien, mais cette idée d'une espérance humaine, pourquoi pas? Si ça peut s'appeler l'amour. À la fois dans la chair, parce que c'est agréable aussi. Peut-être que si les gens faisaient un peu plus et un peu mieux l'amour, il y aurait moins de malheur dans le monde dans ce sens-là, et puis l'amour au sens d'un grand A, d'une chose partagée. Oui, j'y crois. J'avoue que j'y crois.
Mais il y a aussi, me semble, Lionel Trouillot, dans vos livres, une sorte de tonalité mélancolique qu'on retrouve dans les discours des gens, puisque c'est souvent des monologues. Ça, c'est peut-être un rapport au passé particulier.
Ça, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a aussi des personnages qui sont pas du tout dans le passé. Il y a des personnages qui sont dans l'urgence du présent. Peut-être que je le fais trop bien. Enfin, je ne me sens pas habité par ça, mais là encore, quand un écrivain porte témoignage sur son œuvre, il y a beaucoup de chances que ce soit un faux témoignage. Mais pour ce que moi, je peux en dire, non. Je ne me sens pas du tout habité par une quelconque mélancolie.
Et pourquoi tout à l'heure vous avez dit que vous ne vous considériez pas comme un auteur engagé ou vous ne vous définissiez pas comme ça?
J'ai rien contre l'appellation. Quand les gens le disent, je ne rejette pas. Disons que ce n'est pas ma manière de penser le travail que je fais. Ce n'est pas le langage que moi, j'appliquerais au travail que je fais, mais je comprends qu'on puisse le dire, il n'y a aucune peur hein, de l'idée de l'engagement dans le travail littéraire. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction entre une vision politique ou une vision sociale de la réalité, des choix politiques et des choix sociaux, et la qualité esthétique de l'œuvre. Je pense que c'est une fausse contradiction créée par la théorie littéraire qu'on pourrait dire profondément réactionnaire et de droite. Il n'y a pas beaucoup de poètes de l'anti-engagement qui soient plus poètes que Neruda. Hein. Faut qu'on arrête avec ce genre de plaisanterie. Un auteur comme Miguel Ángel Asturias, dont je parlais tout à l'heure, plus engagé politiquement, c'est rare, mais les gens du Guatemala, c'est fou qu'il dira que c'est pas une grande œuvre littéraire, ou on pourrait parler de Carpentier. Je pense que c'est un truc occidental, un peu occidental, quand je dis occidental, je parle occident chrétien blanc capitaliste, cette sorte d'opposition entre engagement et qualité esthétique. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction entre une orientation politique claire et la qualité littéraire. D'ailleurs, souvent, les auteurs ou critiques qui parlent d'une contradiction entre engagement et qualité littéraire, ils sont tous très engagés à droite, alors, donc ils nous foutent la paix.
Et l'autofiction, Lionel Trouillot, ça vous a jamais tenté?
Ah non. Je pense qu'il y a un peu de moi dans ce que j'écris, forcément, puisque bon, j'existe, mon premier roman, c'est Les Fous de Saint-Antoine, le personnage principal s'appelle Antoine, ce qui est mon premier prénom, donc il y a quelque part où on n'échappe pas totalement à soi-même, mais vraiment raconter la petite vie de Lionel Trouillot, s'est démêlé avec sa sexualité, avec son père, avec je sais pas quoi, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui le font très bien, à partir du moment où on part de ça pour arriver à autre chose de plus large. Moi, je saurais pas faire, donc et ça ne me vient pas. L'autofiction en soi, qui serais-je pour condamner? J'ai pas le droit, les gens, ils écrivent ce qui les habite, et les lecteurs, ils lisent ce qui leur fait plaisir, donc j'ai pas à décider pour qui que ce soit. Il y a pour moi quelques grands textes dans toute cette aventure de l'autofiction, et puis il y a aussi un ronronnement. Voilà, je veux pas qu'un auteur me prenne pour son psy. Honnêtement, il y a des livres, plutôt que de faire ce livre, tu vas avoir un psy, et puis voilà, tu discutes de tes problèmes avec lui, mais pourquoi venir m'emmerder, moi, lecteur, me demander de dépenser mon argent, voilà, pour traiter de loin ta petite histoire, donc c'est pas...
Merci, Lionel Trouillot. Et votre façon de regarder ces thématiques depuis des histoires intimes, eh bien, on va en parler dans le prochain épisode. Merci pour cette rencontre.
Alors là, c'est là que je me fais les ennemis.
À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Lionel Trouillot, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Stéphane Foulon, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Sylvie Tanette disponible sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.